Il y a quelques questions, je vais vite y répondre. La connaissance métaphysique de la quantité peut-elle aider à comprendre ce qu'est le lieu? Oui, c'est sûr, mais je ne regarde pas le lieu ici. Alors ça, c'est un point de vue physique, philosophie de la nature. C'est très important, c'est sûr. On va le voir dans un instant, du reste. Quel est l'ordre entre quantité continue et quantité discrète? On va le voir aussi. Qu'entendez-vous par forme matérielle? De quelle matière s'agit-il? Il s'agit de la matière générale, quand je dis forme matérielle. C'est-à-dire une forme qui, de fait, se comprend en fonction du monde matériel. Une forme inséparable de la matière. La quantité est une forme inséparable. Je peux formaliser la quantité, mais la quantité n'existe que dans une matière. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser le sujet des mathématiques? Je ne vais pas le faire. Ce serait très intéressant, mais c'est un sujet énorme. Quel rôle joue l'existence en mathématiques? Historiquement, les mathématiques ont commencé par l'expérience des figures géométriques dans la nature. Peut-on donc complètement abstraire l'existence des mathématiques? Comment expliquer alors l'efficacité des sciences qui les utilisent, la physique? Ah oui, c'est un très grave sujet, ça, c'est les formalisations successives en mathématiques. C'est très vrai, c'est un sujet qui serait très important à traiter. Il faudrait reprendre ce que je disais ce matin à l'un d'entre vous. Il faudrait reprendre tous les degrés du savoir de Maritain. Ce serait une chose à faire, ça. Et ça pourrait être une œuvre commune, parce qu'il y a des compétences diverses. Ce serait à reprendre. C'est un livre intéressant à lire. Un des livres les plus intéressants de Maritain, c'est les degrés du savoir. Alors, c'est un livre qui demanderait, je crois, d'être entièrement repris. Non, pas du tout, parce que c'est pas... Mais ça demanderait d'être entièrement repris. Et il faudrait le reprendre dans le contexte d'aujourd'hui pour aider les gens à comprendre le point de vue du passage des mathématiques au point de vue métaphysique. Et au point de vue physique. Passage, comprenez bien. Hein, il n'y a pas de continuité. Alors, ce serait intéressant à voir comment, et c'est ce que j'avais essayé de toucher un tout petit peu, et c'est ça qui vous aiderait, je crois, à comprendre ce que c'est que le sujet des mathématiques. Cette forme matérielle que représente la quantité demande d'être formalisée. Et elle peut être formalisée par la pensée. Et dès qu'elle est formalisée par la pensée, alors nous avons le domaine de la connaissance mathématique qui va commencer. Parce qu'elle réalise cette formalisation. Les mathématiques formalisent cette formalisation. Vous voyez, c'est ça qui est le propre des mathématiques. C'est qu'on se donne à soi-même l'objet qu'on considère. À ce point de vue-là, c'est analogue à l'inspiration. Et c'est vrai que les deux possibles, c'est les possibles mathématiques et c'est les possibles de l'inspiration. C'est les deux grands possibles. Les mathématiciens formalisent. Et c'est pour ça qu'Aristote dit tout le temps cette chose curieuse, les mathématiques regardent les êtres abstraits, mais en prenant abstraction au niveau, justement, formalisation. Le mathématicien se donne ces mathématiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fondement dans le réel. Le fondement dans le réel, c'est parce que cette forme, qui est la quantité, est fondée dans le réel. Mais le mathématicien ne regarde pas cette forme en tant qu'elle se fonde dans un sujet matériel, mais il regarde cette forme en tant qu'elle est formalisée, en tant qu'il la formalise. Il peut formaliser cette forme. Il n'y a pas beaucoup de formes qu'on peut formaliser, c'est la seule forme qu'on peut formaliser. Vous voyez les autres formes. Hein, c'est un peu nota bene, mettez ça en nota bene, c'est de la critique. C'est de la critique pour moi. Vous avez la qualité. La qualité ne peut pas se formaliser. Elle est indivisible. Toutes les qualités sont indivisibles. Vous avez la substance. La substance ne peut pas se formaliser, c'est un principe. Elle est indivisible. Qu'est-ce que vous avez entre les deux? Vous avez la matière, la quantité. Ce qui est justement entre les deux. Elle participe des deux. Je vous avais dit, elle a un rôle de médiation, la quantité. Très curieux. Alors, c'est cette chose particulière que la quantité, je, la substance ici, la substance matérielle, si vous voulez, de la matière, découvrir le pose de la substance, le pose, le comment de la substance individuelle. Donc la quantité s'appuie sur la matière, s'enracine sur la matière. La quantité existante ne peut pas se séparer de la matière. La quantité existante, la quantité dont parle le philosophe. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la quantité dont parle le philosophe, mais pas la quantité dont parle le mathématicien. Il y a un petit quelque chose de commun, mais ce n'est pas du tout la même chose. Parce que la quantité dont parle le philosophe est toujours liée au jugement d'existence. La quantité qui existe, elle est toujours dans la substance matérielle. Mais la quantité a une forme que le philosophe connaît, et cette forme est inséparable de la matière. Mais je peux, en quelque sorte, abstraire cette forme, je ne dis pas séparer, abstraire cette forme, la formaliser, et ne plus regarder que le divisible. Donc, le possible. Et l'être mathématique n'existe que grâce à la division, qu'opère l'intelligence. C'est l'intelligence qui lui donne son caractère propre. C'est pas la réalité, c'est pas la quantité telle qu'elle se trouve réalisée qu'on regarde le mathématicien, c'est cette forme formalisée, divisible, à l'état pur, j'allais dire. C'est le divisible à l'état pur. Et tout le lien avec la relation. Le mathématicien est à la fois entre le divisible et la relation. Et je crois que c'est le lien entre les deux. C'est le lien entre les deux. C'est que l'intelligence, en divisant, réalise ses relations. Et réalise les relations toujours plus. Alors le mathématicien, regardant l'objet le plus formel, ce sera la relation, à l'intérieur de ce divisible. Et dans ce divisible, donc c'est une formalisation de la quantité. Ce n'est plus la quantité. Dire que les mathématiques regardent la quantité, vous comprenez, c'est faux. Ce n'est pas la quantité telle qu'elle existe. Mais c'est quand même fondamentalement cette quantité. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un lien avec le réel. Le mathématicien saisit, j'allais dire, l'intelligibilité la plus formelle du monde physique. Mais ce n'est plus le monde physique. Puisque c'est formalisé, c'est coupé de l'existence. Mais ça peut y revenir dans l'application. Et ça expliquera comment le physicien pourra se servir. Alors, puisqu'il y a une formalisation pour atteindre l'être mathématique, on comprend comment on pourra formaliser toujours plus. Alors c'est là où je me demande, vous voyez, c'est ça qui serait intéressant dans l'histoire des mathématiques. On va en parler à M. Balmès, puisque c'est son gros problème, ça. Il y aurait le point de vue de la géométrie. C'est très vrai que les mathématiques ont commencé par le point de vue de la géométrie et par le point de vue du nombre. Regardez les pythagoriciens. On voit bien ça. Donc il y a un lien avec l'expérience. Puis il y a les mathématiques ensuite qui se sont beaucoup évoluées, les mathématiques telles qu'on les a conçues dans le monde moderne. C'est beaucoup plus les relations des possibles. Mais ces relations des possibles sont nées du divisible. Puis, en dernier lieu, la logique mathématique, la logistique. Vous voyez, trois degrés d'abstraction, mais qui ne sont pas du tout les trois degrés d'abstraction au niveau scolastique. Vous avez un premier degré, un second degré et un troisième degré, la théorie des ensembles. Je crois qu'il y aurait là quelque chose d'intéressant à voir. Comment une formalisation appelle une autre formalisation et appelle une formalisation toujours plus loin. Mais vous voyez que plus la formalisation est forte, plus on est loin du contact avec le point de vue existence. mais il reste toujours un lien. Ce serait faux de dire que les mathématiques ne disent rien du réel. Elles disent quelque chose du réel, mais quelque chose d'extrêmement ténu. C'est un réel qui est digéré trois fois, trois poches d'estomac, hein. Vous voyez, trois poches d'abstraction, si j'ai la dernière. Hein. C'est donc quelque chose qui est au fond très loin du réel, dans son ultime, pas dans son premier moment. Pas dans son premier moment, mais dans son ultime moment, c'est très loin. Alors c'est ça qui serait très intéressant à faire au point de vue critique, vous voyez, c'est de voir ces trois degrés d'abstraction successive dans le domaine mathématique et les trois degrés d'abstraction classique des scolastiques de saint Thomas et d'Aristote. Vous voyez, quand Aristote parle de la philosophie de la nature, des mathématiques et de la philosophie première. Saint Thomas en parle dans le commentaire des Trinitate de Boès, c'est dans son commentaire du Trinitate de Boès où on le voit le mieux, et de fait, ça s'enracine dans la connaissance d'Aristote. La connaissance, la philosophie de la nature, Aristote prendra les notes, parce que les mathématiques, il les montre par parenthèse. Les mathématiques ne servent pas pour Aristote de métaxude, d'intermédiaire par rapport à la philosophie première. C'est la différence avec Platon. Pour Platon, on parle des mathématiques aux mathématiques, de la philosophie de la nature aux mathématiques et des mathématiques à la philosophie première. Alors les mathématiques servent de médiation. C'est toute la différence entre la pensée spéculative de Platon et celle d'Aristote. Tandis que pour Aristote, les mathématiques sont mises entre parenthèses. Pourquoi ? Parce que les mathématiques font abstraction de la finalité et abstraction du jugement d'existence. Le jugement d'existence n'est pas présent formellement dans les mathématiques. Il est fondamentalement, mais il n'est pas présent formellement. Or, pour Aristote, le jugement d'existence est toujours présent formellement dans toute la philosophie. De sorte que il faudrait comprendre ce degré d'abstraction de la philosophie de la nature et de la philosophie première en comprenant bien le lien qui existe entre les deux. Vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant à voir. Les parallélismes entre la formalisation mathématique et l'analyse toujours plus poussée de la connaissance philosophique. Je ne dis pas la formalisation. Il ne faudrait pas dire que la philosophie première est plus formelle que la philosophie de la nature. Non. C'est l'analyse qui est plus poussée. Mais nous sommes là au niveau de l'analogie. Oui. C'est un procédé analogique, tandis que de l'autre côté, c'est un procédé, non pas dialectique. Troisième procédé, la dialectique. Qui n'est ni les mathématiques, ni la philosophie. La pensée hegelienne, elle vient au troisième mur. Alors c'est la dialectique. Que deviennent les degrés d'abstraction dans la dialectique ? Oui. Il me semble qu'on doit dire que ici nous sommes dans un domaine philosophique, la recherche des causes propres. Ici, nous sommes dans un domaine mathématique, qui donnera naissance au ciel, où nous sommes en face, non pas de la recherche des causes propres, mais où on est en recherche des liens, donc des relations nécessaires. Ce n'est pas la même chose. Et ces relations nécessaires seront le fondement des lois dans les sciences. Oui. Et là, en dialectique, au contraire, on est dans un mouvement, non pas ni des relations nécessaires, ni de la recherche des causes, on est dans un mouvement d'engendrement d'une synthèse. C'est encore autre chose. Et je crois qu'il faut bien distinguer ces domaines-là. Il faut qu'on arrive à bien discerner le domaine de la philosophie, le domaine de l'abstraction mathématique et le domaine de la dialectique hegelienne. Si vous avez le discernement de ces trois, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Vous arrivez à le domaine de la pensée. Mais ça, on doit y arriver petit à petit. Hein. C'est le propre de notre intelligence humaine. Hein. Les changements de vitesse. Quoi. Bon. Alors, je ne vais pas plus, hein. Je m'excuse pour celui qui a posé la question, mais je ne peux pas aller plus loin, parce que c'est un domaine très vaste, très difficile, mais très important. Alors, je vais terminer maintenant avec vous, parce que je ne veux pas rester indéfiniment sur le domaine de la quantité. Je risquerai de vous quantifier un peu trop, dans un certain temps. Alors, ça n'irait plus, il faut au contraire se spiritualiser et non pas se quantifier. Mais c'est quand même très important de comprendre ce domaine de la quantité. Il y a une petite phrase de saint Thomas qui est intéressante, comme toujours quand saint Thomas parle du domaine. Au point de vue, vous voyez, je vous cite ce passage. Parce que le mathématicien considère les lignes, les points, les surfaces et leurs accidents, mais pas en tant qu'ils sont les termes du corps naturel. On dit qu'il abstrait de la matière sensible et naturelle, et la raison qui lui permet d'abstraire est que selon l'intelligibilité, ils sont abstraits du mouvement. Pour manifester l'évidence de cette raison, il suffit de considérer que beaucoup de choses sont conjointes dans la réalité tout en étant indépendantes du point de vue de leur intelligibilité. Ainsi, blanc et musicien sont unis dans un sujet et cependant ils sont indépendants du point de vue de leur intelligibilité, si bien qu'on peut les comprendre l'un sans l'autre. Et c'est cela, saisir l'un, abstraction faite de l'autre. Or, il est manifeste que ce qui est postérieur ne fait pas partie de l'intelligibilité de ce qui est antérieur, mais c'est le contraire. Ce qui est antérieur peut donc être saisi, intelligit, peut être saisi sans ce qui est postérieur, mais non l'inverse. Ainsi, il est manifeste que animal est antérieur à homme et homme antérieur à cet homme. Car homme provient d'une addition à animal et cet homme d'une addition à homme. Animal peut donc être saisi sans homme et homme sans Socrate et les autres individus. C'est cela abstraire l'universel du particulier. On voit très très bien les degrés d'abstraction. Antérieure et postérieure. La loi, vous voyez, la raison nécessaire. On abstrait une notion d'une autre notion. Une notion qui est première et primitive, une notion qui est plus générale. Alors, il y a une chose que saint Thomas ne cesse de montrer, c'est les liens entre la quantité et la mesure. Nous n'avons pas parlé de ça, et c'est pourtant très important. Mais ça vient maintenant parce que c'est les liens entre le point de vue de la quantité et le point de vue de l'intelligence. Saint Thomas aime de noter, très souvent, que le point de vue de la mesure est lié à la quantité. Je vous lis ce petit passage dans les commentaires de la métaphysique, livre 4, leçon 2, numéro 560, l'édition Marietti. La raison de mesure et la passion propre de la quantité. Ça demanderait, je pourrais vous donner ça comme un petit travail, en vous laissant sécher pendant 3 heures là-dessus, n'est-ce pas ? On verrait ce que ça produirait. C'est pas si mal, hein ? C'est un petit travail, hein ? Notez bien ça, parce que c'est beau. La raison de mesure, la ratio. La raison de mesure traduisait ce qu'est la mesure. Hein, ce qu'est la mesure. Donc la raison de mesure, la ratio de mesure et la passion propre. La passion propre, c'est-à-dire la propriété. Hein. Et la passion propre de la quantité. La passion propre de la quantité. C'est la ratio de mesure. Très très joli choix. Essayez de comprendre. Hein. Alors, la ratio de mesure est la passion propre de la quantité et se trouve en premier lieu dans l'unité. trouve en premier lieu dans l'Évangile. Saint Thomas dit encore ceci. Je vous donne quelques textes comme ça sur la mesure, hein, parce que c'est intéressant. Et c'est intéressant et c'est difficile. Dans le DNT Sanctia, Saint Thomas dit « Dicitur quantitas, eo quod est mensura substantiae. » Donc, la quantité est dite de cela qu'elle est mesure de la substance. C'est dans le DNT Sanctia qu'il dit ça. Mais il le redit dans le cas, il le redit dans le commentaire à la métaphysique. Il le redit aussi dans le De Potentia. Donc c'est une affirmation constante. Et c'est très difficile à bien comprendre. C'est pour ça que je vous le dis. C'est très difficile à bien comprendre. Comment le point de vue de la quantité est mesure de la substance. Donc la quantité est mesure de la substance. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je vais donc d'abord regarder la ratio de mesure. Qu'est-ce que c'est que la mesure? C'est intéressant de se poser la question. Qu'est-ce que c'est que la mesure? La mesure, c'est ce par quoi je connais un autre. La mesure est un principe d'intelligibilité. C'est toujours... Et saint Thomas dira ceci, encore une autre affirmation de saint Thomas, c'est pour mettre quelques textes de saint Thomas là-dessus. Hein. La mesure se dit proprement des quantités. En effet, on appelle mesure ce par quoi la quantité de la chose est connue. Le litre mesure. Et vous connaissez combien il y a d'eau en ayant mesuré. Quand tant que vous n'avez pas mesuré, impossible. C'est pour ça que saint Augustin prend l'exemple de l'océan qu'on ne peut pas mesurer. Vous savez, le petit gosse qui prend un peu d'eau de l'océan dans son petit verre. Il prend un verre, puis le verse. Un verre, puis le verse. Hein, il va mesurer l'océan avec son petit verre. Il pourra dire la quantité, l'océan. Et alors l'océan est infini parce qu'il ne peut pas être mesuré. Alors il est infini, il ne peut pas être mesuré. Tandis que si vous pouvez mesurer le tonneau, vous pouvez le mesurer le tonneau. Tonneau de 100 litres. 100 litres. Vous savez bien ce que ça veut dire quand vous dites ça. Tandis que si on vous dit, ah voilà, voilà cette masse d'eau, cette masse de vin. Avec là, 100 litres. Vous avez mesuré. En mesurant, vous connaissez. C'est drôle, hein? En mesurant, vous connaissez. Vous ne connaissez rien du tout. Oui, vous connaissez la quantité de la chose. Mais vous ne connaissez pas le vin. Quand vous dites 100 litres de vin, mais c'est de la piquette. 100 litres de vin. Tandis que vous dites, ah là, un litre de bon vin. Ça, c'est du bon. Il n'y a qu'un litre. Vous voyez? La quantité, la mesure... fait connaître la quantité. Alors, en effet, on appelle mesure, faut savoir ce qu'on appelle mesure, on appelle mesure, la ratio mesure, hein. On appelle mesure ce par quoi la quantité de la chose est connue. Et cela est le minimum dans le genre de la quantité. Ah, le minimum dans le genre de la quantité, l'unité. Ce qu'il y a de plus petit, ce qu'on ne peut plus diviser. L'unité, c'est ce qui refuse d'être divisé. Alors, ça sert de mesure. Alors, on peut prendre une mesure conventionnelle. Hein. La querelle entre les Anglais et les Français. C'est la question du pied, la question du mètre. C'est quand même très important, ça. Alors, on va voir la question de la mesure. Le mètre, mesure conventionnelle. C'est une mesure. On mesure la quantité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, vous voyez ? Il faut essayer de comprendre philosophiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ? La notion de mesure qui intervient parce qu'il y a de la quantité. S'il n'y avait pas de quantité, il n'y aurait pas de mesure. Ça, c'est sûr. S'il n'y avait pas de quantité. Vous n'avez pas de mesure pour la qualité. C'est pour ça que vous dites des goûts et des couleurs. Hein. On discute. Tandis qu'on ne discute pas de la quantité. Non, ça ne se discute pas. Une fois que c'est précis, hein. On n'a pas discuté 107 ans là-dessus. Oui, on peut discuter. Il y a plusieurs qualités. Bien, vous allez dire, et on va le voir dans un Thomas, le maxime est allé. Du plus et du moins, maxime est allé. Hein? Ce qu'il y a de plus. Alors on a l'air de mesurer. Difficile. Ce qui est sûr, c'est que la mesure est premièrement dans le domaine de la quantité. Et s'il n'y avait pas de quantité, il n'y aurait pas de mesure. Et donc la mesure, c'est ce par quoi je connais la quantité. La quantité est essentiellement indivisible, et parce qu'elle est essentiellement divisible, elle est confuse. Et j'ai besoin de la mesurer pour la connaître. Autrement, je naisse dans sa confusion. Quelque chose qui n'est pas mesuré est dans sa confusion. Et la quantité est source de confusion. Curieux. La quantité est source de confusion. Vous voyez, ça explique les mathématiques, ça. Non, vous n'oubliez pas cette petite phrase d'Aristote, hein, je vous l'ai déjà citée, il faut la comprendre. Les mathématiques sont nées en Égypte de la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Alors, ils ont eu besoin de connaître. Et pour connaître, ils ont inventé les mathématiques. Ils ont mis un peu d'ordre dans un domaine confus. C'est ça que fait le mathématicien. Il met de l'ordre dans un domaine confus. C'est pour ça que normalement, un cerveau mathématique aime bien l'ordre. Aime bien les choses claires, nettes, précises. Parce qu'ils vont mettre dans un domaine qui n'est pas le domaine de l'être. Alors quand le mathématicien prétend que c'est le domaine de l'être, ça ne va plus du tout. Mais c'est dans un... Alors il a une méthode mathématique. C'est dans un domaine particulier. C'est pour ça que c'est né du domaine divisible. Parce que c'est le domaine le plus confus. Alors c'est le domaine le plus confus où il faut mettre un peu d'ordre. Il faut mettre un peu d'intelligibilité là-dedans. Alors on abstrait. Vous voyez, c'est pour ça que c'est lié à la question de la mesure. La mesure, c'est un principe de connaissance. C'est un principe de connaissance. Un principe de connaissance, c'est donc quelque chose qui est le plus indivisible pour connaître quelque chose de divisible. Et je me suis donné alors des mesures conventionnelles pour les plus, pour le commerce. C'est bien évident, il n'y a pas besoin de commerce, il n'y a pas besoin de maître. Et le Corbusier a voulu inventer son maître. C'était bien évolué en disant le maître c'est abstrait, l'architecture ça ne doit pas être abstrait, ça doit être pour l'homme, alors on va donner le modulor. C'est très intéressant, c'est intéressant à voir ça. Parce que c'est vouloir donner une mesure dans l'ordre qualitatif par rapport à l'homme. Ça prouve qu'on a une notion de l'homme qui est purement quantitative. Parce que l'homme ne se mesure pas. L'homme se mesure, il a différentes tailles. Alors le modulor, c'est de donner la taille moyenne. Alors on fait l'architecture pour la taille moyenne. Alors on fait une belle architecture pour la taille moyenne. C'est très intéressant de voir ça. C'est intéressant parce que ça montre que dans un domaine confus, on veut mettre un peu de clarté. On veut mettre un peu de clarté dans un domaine qui est confus. Le domaine du divisible, c'est un domaine confus. On veut mettre un peu de clarté. Alors, essayons de comprendre. Le lien qui existe entre la quantité et la mesure, la ratio de la mesure et la passion propre de la quantité. La raison de mesure. Ce que c'est que la mesure, c'est la propriété de la quantité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la propriété de la quantité? La propriété, c'est l'accident lié à la réalité qui manifeste. C'est ça le propre de la propriété. Quand vous dites, par exemple, la capacité de rire est la propriété de l'homme. Quand vous voyez l'enfant rire, vous pouvez dire, il n'est pas bête, ce gosse-là, il rit. Tandis que vous dites, ah, je ne sais pas ce qu'il a, ce gosse, il n'a pas encore souri. Ça ne fait pas s'il est intelligent. C'est vrai, quand vous voyez une communauté à face macabre, n'est-ce pas, qui ne rit plus, vous dites, cadavre ambulant, elle ne sourit plus. C'est la purge de la communauté ce matin, et c'est pour ça que personne ne sourit. N'est-ce pas, c'est là, alors, un iceberg ambulant, c'est ça. On voit très bien. C'est pas le gros rire, hein, le gros rire sur le zinc, c'est tout à fait autre chose. C'est pas du tout la même chose. Le sourire le propre de l'homme. On n'a jamais dit que le rire était le propre de l'homme. Non, non, c'est le sourire. Ça manifeste l'intelligence à travers le domaine de la quantité. Eh bien, la ratio de la mesure manifeste ce que c'est que la quantité. Je commence à comprendre un peu mieux. Eh bien, oui. La quantité, je vous l'ai dit, elle est faite pour la division. Et c'est l'homme qui divise, c'est l'intelligence humaine qui divise. Vous voyez le lien entre la quantité et l'intelligence humaine. La quantité va donner à l'homme un procédé nouveau de connaissance qui sera la mesure. C'est pour ça que l'homme aime tellement mesurer. Il aime de mesurer. C'est pour ça que l'homme aime tellement mesurer. Il aime de mesurer. C'est la première façon dont il domine. Vous voyez, petit propriétaire, hein, qui mesure son lopin de terre. Et je vous affirme, hein, il aime ça. Hein. À partir du moment où c'est mesuré, il l'a dominé. Donc la quantité offre à l'intelligence une possibilité de mesurer. Il mesure né de cette complicité de la quantité et de l'intelligence humaine. Il y a une complicité entre les deux. Et à partir de là, naît la mesure. Et à partir de là, puisque naît la mesure, l'homme va considérer que le type de la connaissance le plus parfaite, c'est de mesurer. D'où le positivisme. Le positivisme, c'est de dire « je ne connais quelque chose que quand je l'ai mesuré ». Or Dieu, je ne le mesure pas, donc je ne le connais pas. Et à partir de là, on dit « puisque je ne le connais pas, il n'existe pas. Puisque n'existe que ce que je mesure. » C'est très très curieux, cette complicité du domaine quantitatif et de l'intelligence humaine. Je crois que ça, c'est très important. Et cette complicité, nous la retrouvons en mathématiques. C'est pour ça que les mathématiques sont tellement humaines, comprenez bien, hein, si peu humaines, parce qu'elles sont tellement humaines au niveau de la complicité de l'intelligence et du divisible, et si peu humaines parce qu'elles considèrent que c'est cela le domaine propre de la connaissance qui va dominer tout le reste. C'est très curieux ça, c'est très intéressant de voir cette complicité. Du domaine du divisible, hein, de la quantité et de l'intelligence. Bon. Alors, comprenez, à partir de là, la quantité mesure de la substance. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends très bien comment la quantité est source de la mesure. Ça, c'est vrai. Et la quantité étant source de la mesure, la quantité va être mesure de la substance. Quand je dis, vous voyez, autrement dit, il y a deux aspects, quantité et raison humaine. Quantité et abstraction humaine, tout ce domaine-là. Et alors, le lien pour la quantité vous amène à la mesure. Hein? Vous voyez bien ça, j'espère. Puis alors, deuxième relation, la quantité et la substance. La substance, c'est la relation des époux de l'être. Parce que la substance, c'est le principe radical de ce qui est. Et donc, autrement dit, on essaie par là de saisir la double relation. Je vais écrire là pour que vous voyez bien ça. Ça me semble important. Vous allez voir la double relation de la quantité. La quantité est relation avec la raison. Et la quantité est relation avec l'être. C'est très curieux qu'on éprouve le besoin, quand il s'agit de la quantité, de donner cette double relation. On ne fait pas ça avec la qualité. La diction a besoin de montrer la double relation. Il y a une complicité très très grande de la quantité avec la raison. Parce que ça va être un domaine où la raison pourra s'installer dans le domaine de l'abstraction. Et réaliser la mesure, inventer la mesure. C'est l'intelligence qui invente la mesure. Hein. Et j'invente la mesure à cause de la quantité. Principe de connaissance. Principe d'intelligibilité. C'est pour ça que la mesure est tellement liée à la cause exemplaire. Il y a un lien entre la cause exemplaire et la mesure. Mais la mesure n'est pas la cause exemplaire. Hein. Nous n'identifions pas les deux. Mais comprenons qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Ça, c'est sûr. Il faudra essayer de comprendre progressivement. Mais ce qui est sûr, c'est que la mesure, c'est l'intelligence qui l'invente. Alors, second lien entre la quantité et l'être. Je dis, la quantité est mesure de l'usia, donc de la substance. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Évidemment, il s'agit de la substance individuelle. Il s'agit de la substance impliquant la matière, c'est bien évident. Donc il s'agit de la substance réalisée, existante. La quantité est mesure de l'usia. Parce que par la quantité, l'usia a des parties. Par la quantité, l'usia a une extension. Par la quantité, l'usia est juxtaposée à une autre. On quitte le domaine de l'indivisible pour entrer dans le... C'est vrai, c'est ça que fait la quantité. Je quitte le domaine de l'indivisible, le principe, pour entrer dans le domaine du divisible. Vous voyez que vous touchez là au fondement de toute individuation. On quitte le domaine de l'indivisible, le domaine du principe, pour entrer dans un domaine du divisible. Et ce domaine du divisible m'est donné par la quantité. Or, dès qu'il y a divisible, il y a mesure. Je ne peux pas mesurer l'indivisible. Tandis que dès qu'il y a quantité, je tombe dans le point de vue du divisible. Donc je tombe dans la capacité d'être mesuré. Et alors, la quantité terminée mesure. Je deviens un être commerciable. C'est effrayant. Mais le principe n'est pas commerciable. Tandis que par la mesure, je deviens un être commerciable. Je peux mesurer. Je peux être dans la série. Je peux mettre quelqu'un dans la série. Ce qui peut être mesuré. Avoir un numéro. Quand vous mettez quelqu'un, vous le réduisez à un numéro, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez sa personne à une série. Donc au domaine purement quantitatif. Vous le mesurez, et parce que vous le mesurez, vous pouvez l'utiliser. C'est par la mesure qu'on l'utilise, toujours, toujours. Premier domaine, c'est de vous mettre dans la série, puis après de vous utiliser, quand vous êtes dans la série. Donc c'est le domaine, c'est ça le propre, vous voyez. Si je regarde par rapport à l'être et par rapport à l'usia, qu'est-ce que fait la quantité? Elle mesure la substance, l'usia. Elle rend l'usia mesurable. C'est ça que je voudrais dire. Elle permet de mettre l'usia dans la série. Elle permet de relativiser l'usia. Elle permet de la commercialiser. C'est ça que fait le domaine de la quantité. C'est extraordinaire. Et alors, par là, vous voyez, l'usia va pouvoir entrer dans le point de vue de la partie du tout. Ça, c'est sûr. Grâce à la quantité, l'usia indivisible, autonome, devient partie d'un tout. Elle est mesurable. Et elle est mesurée. La quantité mesure de la substance. Vous essayez de comprendre ce passage-là. Et c'est le passage, je vous dis, de l'indivisible au divisible. Et ce passage de l'indivisible au divisible est quand même quelque chose de capital. Au point de vue de la connaissance que j'ai des réalités. La qualité fait juste inverse. Elle me donne mon originalité. Grâce à la qualité, je ne peux pas être commercialisé. Ayez des qualités, vous ne serez pas commercialisé. Ayez de la quantité, vous serez commercialisable. C'est par la quantité que je le suis. Je ne peux pas séparer ma quantité, donc je suis toujours commercial. Je peux être réduit à une partie dans le tout, à cause de la quantité. Donc, c'est là où je comprends, vous voyez ce que je vous disais l'autre jour, la possibilité qu'il y a, à cause de l'entité, d'être manipulé. Donc quand je dis que la quantité est mesure de la substance, c'est ça que ça veut dire. Je peux te manipuler par la raison humaine, puisque je peux te mesurer par la raison humaine. Je suis mesurable par la raison humaine, grâce à la quantité. Alors tout dépendra de la mesure que je prendrai. Oui, puisque je peux avoir des mesures conventionnelles, je peux avoir des mesures politiques. Hein? Donc je peux te manipuler politiquement. Parce qu'il y a des mesures élégantes, et il y a des mesures non élégantes. La mesure élégante, elle est mathématique. Alors ça, elle est très élégante, elle est apolitique. C'est tout à fait autre chose que l'aspect du commerce et la politique. Hein. Mais c'est la même chose, et le mathématicien doit savoir quand qu'il y a un très grand danger, par le point de vue de la mesure, de faire qu'immédiatement ce soit pris par le point de vue politique. Toujours, le tout et la partie. Donc, c'est pas le point de vue. Alors, la mesure par excellence, c'est l'un. La mesure par excellence, c'est l'un. Et c'est pour ça que le domaine de la quantité se termine par la connaissance de l'un. L'un, c'est du domaine de la quantité. Et l'un est mesure. Alors, vous avez la jonction de ce que c'est la ratio de mesure, et de la quantité. C'est l'un. Donc l'un est la propriété de la quantité. Vous voyez comment on arrive à de la mesure, c'est très vrai, la mesure par excellence, c'est l'un. Parce que c'est indivisible. Je prends l'un dans l'ordre de la quantité, ici, hein, je fais attention. C'est pas l'un métaphysique, hein. C'est pas l'un métaphysique, c'est l'un dans le domaine de la quantité. Celui-là mesure. Pourquoi ? Parce que justement, il est principe d'unité. C'est parce qu'il est principe d'unité, il va me permettre de diviser les autres. Il va me permettre de nombrer. Donc de mesurer. Quand je dis 3, c'est 1, 1, 1. Hein, ça fait 3. C'est la question. Donc, j'ai par là, je mesure en répétant la chose. Je mesure, et je mesure de la manière la plus profonde, de la manière la plus formelle. Et donc la mesure par excellence, c'est là. Mais comme j'ai vu la qualité par excellence, qui était le point de vue de l'habitude, c'est l'habitude de sagesse qui est un habitus contemplatif, là je suis dans l'ordre de la quantité, dans l'ordre de la qualité. Quand je suis dans l'ordre de la quantité, je dis que la propriété de et c'est lié à la mesure. C'est la mesure parfaite. Et c'est par là que je comprends ce domaine propre de la quantité. Oui ?
Qu'est-ce que vous voulez dire de la division par rapport à la mesure ?
La mesure divise quelque chose qui demeure, qui n'a pas été mesuré. C'est-à-dire quelque chose qui reste confus, vous l'actuez par la mesure. Et vous vous servez de la mesure pour l'actuer. Ah, mais oui, c'est évident. C'est pour ça que c'est toujours relié. La mesure provient de quoi ? Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. La mesure provient de quoi ? Est-ce que vous définissez la division ? Cherchez. Et vous trouverez. La mesure, c'est ce par quoi l'intelligence connaît la quantité. Donc, c'est l'indivisible. Ce qui ne peut pas être divisé. Ce qui est au-delà de la division. C'est ça l'indivisible. L'un est au-delà de la division. Je rejoins Dieu. Oui. Et je me sers de cela pour diviser. Et donc je me sers de la mesure pour diviser. Et par là, d'actuer et de connaître le divisible. Vous voyez ? Cette astuce de l'intelligence, c'est extraordinaire. C'est l'intelligence qui découvre la mesure. Hein ? C'est un principe de l'intelligence, ce par quoi je vais connaître. Alors il y a un fondement dans la réalité, c'est bien évident qu'il y a un fondement dans la réalité, mais formellement c'est l'intelligence. Est-ce que vous avez déjà vu un nain qui se baladait tout nu? Non, l'un n'existe que dans votre intelligence comme mesure. Il n'existe que dans votre intelligence. Il a un fondement dans la réalité, mais il n'existe que dans votre intelligence. C'est extraordinaire, ça. Vous n'aviez jamais pensé ça. Hein. Je comprends, du reste, que c'est le point de vue de là, c'est que les mesures, dans toute sa limpidité, dans toute sa pureté, les mesures. Dans la réalité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la quantité. C'est propre, la quantité. C'est du divisible. Formaliser la quantité de la mesure. Et c'est l'intelligence qui formalise et qui fait non. C'est évident que le nombre, comme tel, hein, n'existe que dans votre intelligence. Il a un fondement dans la réalité, mais il n'existe que dans votre intelligence, le nombre. Or, le nombre commence par là. C'est difficile de nombrer sans là. C'est l'intelligence qui se donne la mesure et qui peut nombrer. Vous voyez ce que c'est que la mesure, hein? Vous voyez le lien entre la quantité et la mesure. Vous voyez comment il y a une complicité très curieuse, entre la quantité et l'intelligence, et qui se fait par la mesure. Enfin, ce serait intéressant. Vous voyez, ce serait intéressant à voir, parce que peut-être, vous auriez peut-être le chêne fondamental de la dialectique. Vous avez divisible, raison, un, mesure. La mesure, c'est la synthèse des deux. Il y a une opposition entre les deux. Le divisible, c'est essentiellement confus. L'intelligence ne peut pas supporter le confus. Ne peut pas supporter le confus. C'est impossible. L'intelligence veut la clarté. Et là, les deux unis donnent la mesure. Vous voyez ? Et la mesure, c'est la synthèse des deux, d'une certaine manière. C'est la synthèse des deux. Vous voyez ? Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous fait comprendre comment il y a un schéma très très fondamental dans la dialectique. Et que la dialectique est quantitative, on aboutit toujours à voir ça. La dialectique ne peut se comprendre que par la quantité. Et elle reste tout le temps quantitative. Alors appliquer la dialectique à la très sainte trinité, ça ne va plus. Parce que l'un quantitatif, c'est une mesure. Mais l'un métaphysique, au niveau de l'être, propriété de ce qui est, n'est plus au niveau de la quantité. Là, on touche quelque chose qui est très très profond dans la vie de l'intelligence. Je veux dire, dans la vie de l'intelligence, selon notre conditionnement humain. C'est pour ça que je mets la raison. La dialectique ne se comprend pas par l'intelligence. C'est le conditionnement de notre intelligence humaine. C'est une raison. Et le conditionnement de notre intelligence humaine se trouve à l'aise dans le domaine du divisible. Parce que le divisible, c'est le conditionnement de tout l'être. Et donc l'intelligence est en harmonie. L'intelligence dans son conditionnement humain avec le fondement de tout conditionnement, le divisible. Et la complicité des deux, c'est la mesure. Ça fait donc la synthèse. Vous voyez ? Alors ça éclaire, parce que ça fait comprendre ce que c'est que la synthèse. Vous voyez ? La synthèse est mesure. Je crois que c'est vrai, du reste. Je crois que c'est profondément vrai, ça. C'est que la synthèse est toujours mesure. Ça nous aide mieux à comprendre ce que c'est que la... Parce que thèse, antithèse et synthèse, on n'y comprend plus rien du tout, n'est-ce pas ? Tandis que si je prends divisible et je prends l'intelligence humaine dans son conditionnement humain, je comprends comment la mesure sort des deux. Non, sûrement pas. Il y a une discontinuité.
Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle tous les deux ?
C'est comme ça le langage. Hein. Le langage provient de quoi ? De notre manière de connaître. Or, qu'est-ce qu'on connaît en premier lieu ? La mesure. Qu'est-ce qu'on connaît ? À quel moment l'homme a-t-il inventé la mesure ? Un beau sujet de thèse. À quel moment l'homme a-t-il inventé la mesure ? Ça, c'est bien évident. Donc, le premier analogue koinos, c'est l'allumérique, qui aboutit au zéro. Vous savez bien que le zéro a mis très longtemps avant de naître, n'est-ce pas ? Et qu'il est né d'une façon très particulière, le zéro. N'est-ce pas ? Mais c'est intéressant. C'est l'un qui a d'abord été, c'est la mesure, ça. Alors, c'est d'abord celui-là qui est né, c'est l'un mathématique qui est né en premier lieu, c'est l'un géométrique ou mathématique qui est né, petit caillou. J'ai commencé à compter avec des petits cailloux, il y a des chances. Et ça faisait du bruit, et je croyais que ça faisait du poids. Bon. Alors, j'ai donc un mathématique, et puis de l'un mathématique, j'ai découvert l'un métaphysique. Pourquoi ? À cause de l'indivisible. Oui. C'est la propriété de l'un qui a été transposée. C'est pas l'un. Alors on est des mêmes mots. C'est normal, ça. C'est par le jeu des propriétés, ordinairement, que les mots se transposent analogiquement. Parce que c'est toujours par les propriétés. Or, comme il y a une propriété semblable, indivisible, l'indivisibilité de l'être, c'est l'un. L'indivisibilité dans l'ordre de la quantité, c'est l'un. Mais c'est celui-ci qui est premier, hein, génétiquement. Et c'est pour ça qu'on a quelquefois beaucoup de peine de distinguer l'un métaphysique de l'un mathématique ou de l'un quantitatif. C'est dur. Bon. Alors, à partir de là, vous voyez, il faudrait regarder, mais je ne vais pas le faire avec vous. Il faudrait regarder. C'est l'heure. Bon. Donc, je termine. Hein. Je termine. Et quand seront la métaphysique de l'acte et de la puissance.